Bonsoir, merci de m'accueillir. Je suis heureux de participer à cette fondation. La philosophie nous le dit, le commencement est un dieu. Et nous assistons aujourd'hui à un commencement auquel je suis fier de participer. D'autant plus si c'est accompagné de Chantal Delsol, avec laquelle une amitié de longue date me lie. Je redis à quel titre je suis autorisé à parler ce soir de l'enseignement de philosophie. Qu'est-ce qui me donne autorité? J'ai enseigné la philosophie avec un bonheur inusé pendant 43 ans, en lycée. J'ai enseigné en classe préparatoire et tandis que j'enseignais en classe préparatoire, j'ai toujours souhaité rester simultanément en classe terminale. Je connais assez bien et sur une longue durée la situation faite à l'enseignement de philosophie. D'autre part, comme le disait Philippe Nemo, j'ai créé il y a 15 ans une institution qui s'appelle le Collège supérieur, que j'ai appelé Collège, en reprenant le sens médiéval de cette institution, qui, à côté de l'université, offre un lieu de formation, de rencontre, d'amitié, de contemplation. Au Collège supérieur, je prépare encore un certain nombre de personnes au concours de philosophie, si bien que non seulement j'ai enseigné la philosophie avec bonheur pendant 43 ans, mais j'ai formé des professeurs de philosophie heureux. Et un bon nombre. Une bonne cinquantaine sans doute de professeurs de philosophie heureux. J'ai une connaissance légitime, je crois, de la situation. Or, il se trouve que l'enseignement de philosophie, si on note l'épisode des années 70 où il a connu quelques tempêtes, dû à des soubresauts post-68ards et à une crise liée à l'invasion des sciences humaines. Mais cela, au fond, n'a été qu'une parenthèse, assez vite refermée, et il se trouve que l'enseignement de philosophie actuellement me semble être, dans toutes les catégories de l'enseignement, la matière qui a le mieux résisté au pédagogisme. Si on caractérise le pédagogisme par l'accent mis sur les procédures, l'acquisition de ce qu'on appelle les compétences, en minorant ou négligeant l'importance de la quête du savoir et avec la quête du savoir de la vérité. Je crois que c'est pas pour rien que l'enseignement de philosophie a résisté. Parce que, au fond, les professeurs de philosophie sont tous, à leur manière, des descendants plus ou moins légitimes de Socrate et des sophistes. Descendants des sophistes qui ont été les premiers à faire de l'enseignement un métier, et descendants de Socrate qui, d'emblée, a alerté sur les dangers de la sophistique, en ce que celle-ci s'attache précisément aux procédures. Et ce que Socrate montre dans ses dialogues avec les sophistes et surtout avec les élèves des sophistes, c'est que le privilège accordé aux questions de procédure induit un scepticisme de fond. Parce que si ce qui compte, c'est d'avoir tenu un discours en bonne forme, on peut poser la question avec Socrate de savoir si un discours en bonne forme suffit à honorer l'exigence de vérité. Et est-ce qu'au fond, un discours en bonne forme ne peut pas être seulement un ornement, voire une captation des convictions, une manière de pouvoir? Donc Socrate a bel et bien fondé la philosophie en manifestant que la parole est le temple qui nous est préparé pour accéder au vrai et pour le partager avec les amis, et qu'elle n'est pas seulement une manière d'accéder à du pouvoir. Nos écoles sont-elles une manière d'accéder à du pouvoir? Ou sont-elles une manière d'accéder au vrai? Souvent, bien malin qui peut s'y reconnaître. Et les élèves et les étudiants, on leur fait valoir que, en acquérant telle et telle procédure, telle et telle habileté, tel et tel savoir-faire que l'on qualifiera de sophistique, ils accèdent à du pouvoir. Et le professeur de philosophie, comme le professeur d'histoire ou de physique, peut être complice de cette conviction que, bien, ce n'est pas l'accès à la vérité, ce n'est pas l'inquiétude de la vérité, mais l'inquiétude de la réussite qui sous-tend les études. Les philosophes, comme héritiers de Socrate, restent particulièrement vigilants à l'égard de cette question. C'est leur honneur de dire attention, là, nous ne sommes pas là seulement pour réussir, acquérir du pouvoir en tenant de beaux discours en forme, mais si nous parlons, c'est pour nous comprendre et pour accéder au vrai, pour prendre en considération, au fond, de manière ultime, la seule considération du vrai, ne rien attendre d'autre que ce qui est vrai. Alors, on peut bien sûr critiquer tel ou tel aspect de l'enseignement de la philosophie actuelle. Je tiens pour moi qu'il est plutôt de bonne qualité. Le nombre de jurys auxquels j'ai participé, le nombre d'épreuves que j'ai corrigées, le nombre de gens que j'ai formés me font dire que la formation est plutôt de bonne qualité. Et que si on peut proposer tel ou tel aménagement, il y a un certain nombre d'exigences qui restent honorées de manière modeste, certes, mais réelles. Et donc, si effectivement l'enseignement de philosophie a connu dans les années 70 quelques maladies de langueur, cette histoire est maintenant bien vieille et nous pouvons nous honorer d'avoir quelque peu résisté aux tentatives de sophistique qui résument assez bien les pédagogies procédurales. Alors, dans un premier temps, je rappellerai de manière superficielle et succincte, et forcément, les finalités de l'enseignement de philosophie. Pourquoi un enseignement de philosophie? J'évoquerai ensuite un ou deux problèmes que posent actuellement les programmes de philosophie tels qu'ils sont conçus, car on peut toujours envisager une amélioration, et puisque Philippe Nemo nous dit d'envisager l'école telle qu'elle devrait être, eh bien je vais me livrer à l'exercice et je vais dire cet enseignement de philosophie tel qu'il devrait être, tout en me refusant à cracher dans la soupe actuelle. Et dans un troisième temps, je mettrai en évidence la vocation, la mission, la fonction, prenez le mot que vous voulez, du professeur de philosophie, car plus peut-être que tout autre enseignement, l'enseignement de la philosophie passe par un visage. Et ce visage est le premier témoin de la vérité. Et la haute responsabilité d'un professeur de philosophie, c'est qu'il donne un visage à la vérité. Et beaucoup honorent cette exigence. Et donc il est bon de rappeler à quelqu'un qui se prépare à exercer ce métier que c'est la mission qui est la sienne, modestement, mais réellement. D'ailleurs, il ne pourra la remplir que dans la mesure où il est suffisamment modeste. Les finalités de l'enseignement de la philosophie peuvent être décrites en trois points. Le premier point, l'enseignement de philosophie arrivant au bout du cursus scolaire, joue le rôle, et par nature aussi, pas seulement parce qu'il arrive au bout du cursus, joue le rôle de la récapitulation d'une culture. Et en reconduisant toute cette culture aux questions fondamentales qui l'animent. Donc un élève de classe de philosophie est à l'occasion, et souvent il s'en saisit, j'ai vu que souvent il s'en saisit, à l'occasion de, si j'ose dire, comprendre enfin complètement tout ce qu'il a fait auparavant. Qu'il avait peut-être reçu de manière quelque peu scolaire, passive ou étourdie, et dont il peut voir l'enjeu lorsque l'interrogation de la philosophie, à travers la réflexion sur la quête de la vérité qu'il y a dans la science, la quête de la vérité qu'il y a dans la démarche scientifique, l'aventure humaine qu'il y a dans l'histoire, l'ouverture au vrai et à la contemplation qu'il y a dans la littérature, il peut, à travers les disciplines de philosophie, les disciplines de la philosophie, s'apercevoir et percevoir donc les enjeux des savoirs qu'il a acquis. Comme le disait Philippe Nemo, on envisage difficilement un enseignement de philosophie sans qu'il y ait eu préalablement des savoirs, précisément parce qu'il faut les remettre en cause. Et pour les remettre en cause, encore faut-il les avoir acquis. Et donc, c'est un moment assez heureux de reprise en main du point de vue rationnel des acquis de l'histoire littéraire, de l'histoire artistique, de la science, de l'histoire, de la biologie, etc. Et pourquoi pas de l'éducation physique et sportive, puisque j'ai dit que j'étais professeur de philosophie, mais j'ai quand même pendant un an été professeur d'éducation physique et sportive. Je me suis quand même mieux vu en professeur de philosophie. Enfin, ça permet de rester en forme. La principale vocation de cet enseignement de philosophie, en tant qu'il est une récapitulation, une réappropriation de la culture antérieure, c'est de donner sens et assurance à la maîtrise de la langue. La philosophie, ce n'est pas autre chose que la maîtrise de la langue. Là aussi, Socrate avait raison. Contre les sophistes, qui avaient une certaine manière de comprendre la maîtrise de la langue, comme habileté. Mais que faisons-nous, professeurs de philosophie ? Eh bien, nous passons notre journée à dire « Attention, ne confondez pas particulier et singulier. » Bon. « Ne confondez pas désir et besoin. » Ah. « Ne confondez pas force et violence. » Oh, etc. Et Alain, le grand maître par excellence, le maître par excellence, dit « Qui connaît sa langue, c'est à cette philosophie. » Et au fond, professeur de philosophie, je n'ai jamais fait autre chose que permettre à mes élèves de réhabiter leur langue, d'en parcourir toutes les possibilités, d'en saisir toute la saveur. Et donc, oui, l'enseignement de la philosophie est un enseignement de la maîtrise et de la qualité de la langue, qui passe par un certain nombre d'exercices, mais cette langue, elle doit être soignée parce qu'elle est le palais préparé pour la vérité. Platon nous l'a dit, une faute contre le langage, c'est une faute contre l'âme. Qui blesse le langage, blesse l'âme. Et j'ai toujours été très émerveillé d'avoir le soin des âmes de mes élèves à travers la tâche modeste de corriger leur faute d'orthographe, qui n'est pas simplement une basse besogne, mais qui est précisément le soin apporté à la condition nécessaire de réception de la vérité. Et donc, la correction des fautes d'orthographe est la première étape du métier de professeur de philosophie en tant qu'il corrige des examens des copies et qu'il doit témoigner de suffisamment de respect pour ses élèves pour corriger, même de la manière la plus humble, les fautes éventuelles contre la langue. Qui connaît sa langue, c'est assez de philosophie. La deuxième finalité de cet enseignement de philosophie, c'est que, bien entendu, cette parole permet de rencontrer toutes, de rencontrer l'aventure de la pensée. L'aventure de la pensée incarnée par des grands philosophes. Et donc la deuxième finalité de l'enseignement de philosophie, c'est la rencontre, non pas de la philosophie, mais des philosophes. Car chacun d'entre eux est un aventurier. Chacun d'entre eux mérite d'être estimé et aimé par l'audace de l'interrogation qui est la sienne. Ça aussi, c'est une sacrée émotion de professeur de philosophie que de découvrir le pouvoir absolument neuf d'émerveillement que comporte Parménide. Dès qu'un étudiant commence à entendre les paroles de Parménide, ces paroles sont complètement neuves pour lui. Et donner accès à la grandeur de ces textes, c'est la tâche du pédagogue qui accompagne le jeune homme et la jeune fille vers la rencontre de ces grands esprits. Qu'est-ce qu'étudier un auteur ? Étudier un auteur, bien entendu, ça ne peut pas être le résumé dans une fiche d'encyclopédie. Parfois, on a l'impression que quelques étudiants réduisent des auteurs à une fiche. Il faut bien que ça arrive. Et donc, hop, c'est résumé au fait qu'il a dit « l'homme est un loup pour l'homme ». Et Descartes au fait qu'il a dit cogito ergo sum, etc. Bon, il faut bien qu'il y ait des pauvretés pour qu'il y ait des richesses. Mais penser un auteur, c'est le reconduire à sa complexité. C'est sûrement pas le simplifier. Et donc le professeur est en faute, en quelque sorte, dès qu'il simplifie l'auteur et le résume à quelques cartouches dans lesquelles on pourrait enfermer des pensées résumées et que l'on peut transmettre en silence de main en main, comme dit Mallarmé à propos de la langue. Et quand on lit un texte de philosophie, on est conduit à aimer celui qui l'écrit dans la mesure où tout texte de philosophie nous reconduit à une interrogation. Et on ne peut le comprendre que dans la mesure où cette interrogation, on l'a faite sienne. Et c'est pour ça que la tâche du professeur de philosophie n'est pas d'apprendre aux élèves ce que les philosophes ont dit. Bien sûr, c'est par là que ça finira. Mais la tâche du professeur de philosophie est d'éveiller dans ses élèves la question qui leur permettra de chercher le texte comme une réponse. Sinon, eh bien, ils auront un savoir encyclopédique et nous classerons les philosophes par ordre alphabétique. Ou par ordre chronologique, ce qui est à peu près aussi malin. Encore que, dans l'ordre chronologique, il y ait quand même une logique, comme Hegel nous l'a appris, c'est ce qui fait la différence entre une encyclopédie et un dictionnaire. Et donc on peut, en faisant l'histoire de la philosophie, faire encore de la philosophie. Quand on fait de l'histoire de la physique, on ne fait pas de la physique, mais quand on fait de l'histoire de la philosophie, on fait encore de la philosophie. Et parce que faire de l'histoire de la philosophie, c'est présenter cette histoire selon l'ordre des raisons, et présenter cette histoire selon l'ordre des raisons, c'est la présenter en remontant à l'interrogation, comme Socrate, là encore, notre bon vieux maître, nous l'a appris. Accéder aux grands auteurs, c'est aussi se refuser à leur distribuer des bons ou des mauvais points. À dire qu'il y en a des bons et des mauvais, qu'il y en a des méchants et des gentils. Non. Tous les grands, du moins, nous renvoient à la même aventure. D'ailleurs, ils ont tous quelque chose à se dire. Moi, j'aime bien la formule profonde et énigmatique de Leibniz qui nous dit que toute philosophie est vraie dans ce qu'elle affirme et fausse dans ce qu'elle nie. Et que, en ce sens, il est bien vrai qu'il y a une philosophia perennis et que l'effort de Marx est aussi passionnant et aussi exigeant et aussi juste que celui de saint Thomas d'Aquin, aussi passionnant et exigeant que celui d'Aristote, que celui de Max Weber ou que sais-je, et que c'est par là que tous les grands d'ailleurs se parlent entre eux. Comme le dit Baudelaire dans Les Phares, il y a un dialogue qui se fait des grands auteurs aux grands auteurs, et ils ont tous quelque chose à se dire, et il ne s'agit pas pour un professeur de philosophie qui dirait celui-ci c'est un méchant, ou pire, celui-ci il faut pas le lire, serait un idéologue. Quelle que soit l'idéologie qu'il défend, elles sont toutes fausses. Toutes les idéologies sont fausses. Il n'y a pas de bon camp pour une quelconque idéologie. Et à partir du moment où un philosophe s'autorise à distribuer les bons et les mauvais points parmi les auteurs, il cesse de faire de la philosophie, il fait de l'idéologie. J'ai enseigné pendant un an dans une école que je ne nommerai pas, où les principes sont un peu conservateurs. J'ai pas pu durer plus qu'un an. Et où, dès que je parlais de Descartes, les jeunes filles tombaient en pâmoison. Alors j'étais obligé de téléphoner aux pompiers. Non, il n'y a pas de, y a pas de. Qui n'aime pas Descartes doit arrêter de faire la philosophie. Qu'il faut qu'il change de métier. C'est vraiment notre ami, notre père, c'est lui qui nous a fécondés. La parenthèse est fermée. C'est juste l'occasion de donner un exemple. Enfin, je n'oublie pas la troisième finalité de la philosophie. On ne peut pas l'oublier, puisque c'est sa nature, c'est même sa définition, c'est même son étymologie. Je ne peux pas oublier que l'enseignement de philosophie est celui d'une école de sagesse. Donc, premièrement, une récapitulation des connaissances. Bien. Deuxièmement, un accès au grand texte. Oui, c'est le programme. Troisièmement, une école de sagesse, c'est-à-dire que le fruit, la fécondité de l'enseignement de philosophie est d'aiguiser le jugement, de permettre le discernement. Qu'est-ce que c'est qu'un sage? C'est pas quelqu'un qui fait un régime alimentaire et s'assied en faisant zazen. Le sage, c'est celui qui agit en fonction de ce qu'il sait. Il n'y en a pas beaucoup. Et il est bon qu'un jeune homme, qu'une jeune fille sache à 17-18 ans qu'on peut agir en fonction de ce qu'on sait. Et que la vérité n'est pas simplement une connaissance que l'on aurait validée provisoirement, mais que c'est ce qui vaut la peine que l'on vive en fonction de ce qu'elle nous promet. C'est la raison pour laquelle je suis pour ma part réservé, sans en faire un débat de fond, sur le fait de donner un enseignement prématuré de la philosophie. Car il est bon que cet enseignement de philosophie, il me semble particulièrement heureux que cet enseignement de philosophie advienne au moment des grandes décisions. Un jeune homme, une jeune fille de 17, 18, 19 ans sait qu'il est en train de décider de sa vie d'une certaine manière. Et il est important, au moment où il prend conscience du fait qu'il est en train de décider de sa vie, qu'il sache que on n'est pas simplement un bouchon au fil de l'eau, mais que on peut agir en fonction de ce qu'on sait, on peut se donner un discernement, on peut aiguiser son jugement. Aiguiser ce jugement, cela veut dire, d'une part, comme Socrate nous l'a appris, décidément j'aurais insisté, vous le remarquez. Cela veut dire d'une part être capable de s'émanciper de l'opinion. Et donc la philosophie, dès sa naissance, a été cette manière donc de s'émanciper du pouvoir qui pénètre nos cerveaux et qui prend la forme des mots obligés, des intimidations, des mots qu'on n'a pas le droit de dire, des scandales que l'on craint de provoquer si l'on dit telle ou telle chose. Il est bon qu'un jeune esprit apprenne suffisamment d'impertinence et d'ironie pour soulever la dalle de l'opinion. Ce qui n'est pas facile, qui n'est jamais fini. Et c'est une des fonctions essentielles de l'enseignement de la philosophie. Or, avec quel pied de biche soulève-t-on la dalle de l'opinion ? Avec une question. La question est le pied de biche qui permet de soulever la dalle de l'opinion. Et c'est la raison pour laquelle le chemin de la philosophie, c'est l'ironie, c'est-à-dire l'art d'interroger. D'ailleurs, regardez les sujets du bac, ils sont tous excellents. Les copies, non pas. Mais les sujets, ils sont pratiquement tous excellents. Comment fait-on un sujet de philosophie ? Rien de plus facile. Vous prenez une opinion, vous la transformez en question. Est-il vrai que le plaisir soit le but de la vie ? Et le simple fait d'écrire « Est-il vrai que le plaisir soit le but de la vie ?» conduit même le potache qui va être obligé de traiter cette question à prendre conscience d'une certaine oppression. Et il va bien être obligé, même si c'est l'espace de 4 heures, de faire comme s'il pouvait s'émanciper de cette pression de l'opinion. Et les exercices, exercices en grec c'est assaise, les exercices de philosophie sont précisément donc ce qui permet à un esprit d'exercer sa liberté, et sa première liberté c'est la liberté par rapport au poids de l'opinion. Donc je disais, apprentissage de la sagesse en tant que elle exige que l'on s'émancipe du poids de l'opinion, ça n'est jamais fini. Et puis deuxièmement, donc apprentissage de la sagesse, en tant que, je le disais, être sage c'est agir en fonction de ce qu'on sait, c'est-à-dire avoir suffisamment de discernement dans sa vie. Vous le savez, je vais pas, tout le monde le sait, c'est une des questions les plus difficiles pour nos contemporains que celle du discernement. Quand on voit les interminables adolescences, quand on voit tous les coups d'essai et qui ne sont pas toujours des coups de maître, et tous les zigzags et tous les parcours difficiles, le discernement est chose difficile. Et qui demande un esprit attentif, qui demande un esprit aiguisé, qui demande de la patience. Si la philosophie, en tant qu'elle exerce le jugement, peut permettre ce discernement, elle a rempli sa plus haute vocation. Or, cette plus haute vocation de la philosophie, qui est sagesse, je tiens à souligner qu'elle concerne absolument tous les élèves. Pas seulement les bons, car le mauvais bougre, la coquette paresseuse, l'ignorant crasse, sont très vite sensibles au fait qu'on leur dise que leur vie est sérieuse. Allez, je vais le dire. L'enseignement de philosophie est un des rares lieux où les jeunes entendent dire que leur vie est sérieuse. Et je peux vous dire qu'ils en sont sacrément reconnaissants à ceux qui leur disent. Ceux qui ne leur disent pas « faut bien que jeunesse se passe », qui est un énorme mensonge. Et ceci touche également, je tiens à le dire, la question n'est pas facile, mais touche également ceux qui, parmi nos élèves, sont les plus démunis dans l'ordre culturel. C'est une question qui vaut le coup d'être posée, qu'on peut se poser. Faut-il imposer, proposer l'enseignement de philosophie dans toutes les sections du baccalauréat ? On a souvent l'impression que proposer un enseignement de philosophie dans des sections techniques où les élèves sont souvent très malhabiles et même dégoûtés de l'accès aux notions, aux concepts et à un certain usage de la langue, c'est envoyer les professeurs de philosophie au massacre. Pas nécessairement. Un bon nombre de... Et j'ai justement, avant cette conférence, recueilli un certain nombre d'expériences d'amis, un bon nombre de mes collègues et néanmoins amis me disent que dans les sections techniques, on fait vraiment de la philosophie. Mais bien sûr, on ne va pas commencer par faire une fiche sur Hobbes. Vous commencez à leur parler de Hobbes, ils vous écouteront pas. Mais en revanche, tous les esprits sont préparés pour la vérité, et tous les esprits sont préparés pour le discernement. Et on peut très vite, dans l'enseignement d'une classe technique, faire naître le sens de la problématique. Est-il juste de se venger? Bah ouais! Alors évidemment, il faut un certain temps pour passer du ben ouais au concept. Mais si vous voulez pas faire ce métier, soyez pas professeur. Le professeur, c'est celui qui va faire passer du cri au concept. Vous plaignez pas si vous avez des élèves qui sont au niveau du cri. Vous êtes là pour ça. Et tout votre travail est précisément de leur dire, bon, alors tu as dit ben ouais. Vous avez dit ben ouais, parce qu'il vaut mieux quand même, vous voyez les élèves. Mais enfin, qu'importe. Alors on va essayer d'affiner quand même ce ben ouais. Et tous mes collègues me disent qu'ils font vraiment de la philosophie, et de la philosophie socratique. Alors après, ces élèves des sections techniques ont plus de difficultés pour le passage à l'écrit, qui les met dans une terre inconnue. Mais pas tous. Et quelle joie quand ils arrivent à s'apercevoir qu'ils ont ici un chemin de progrès et tout neuf. Pourquoi? Parce que indemne de leur passé scolaire. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il n'est pas nécessairement inopportun, vous voyez que je suis prudent, de l'enseigner la philosophie qu'en terminale. Parce que c'est une chance que l'on soit aussi, que l'on puisse aussi recueillir des élèves sans prérequis et en pensant qu'au fond, tout esprit, tout ami avec lequel je discute sur l'agora est capable de faire de la philosophie. Oh, on voit bien dans le dialogue de Platon, il y a toujours un moment où il se met à bouder. Enfin, on a essayé quand même. Bon, la plupart des dialogues, sinon tous, se terminent par une bouderie de l'interlocuteur qui dit, bon, maintenant j'en ai marre, je voudrais aller faire autre chose. Mais enfin, Socrate est allé quand même le plus loin possible. Voilà, les trois finalités que je voulais proposer de la philosophie. Récapituler la culture acquise, rencontrer l'héritage des philosophes, s'ouvrir modestement mais réellement à une école de sagesse.